Radio Okapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Bruno Le Marquis encourage ceux qui assistent les déplacés à relever les retournés dans leur milieu. Selon les coordonnateurs humanitaires en RDC, il faut changer de paradigme. De l'assistance humanitaire dans des sites au processus de relèvement des retournés dans leur milieu, a-t-il déclaré. Le camp de la République poursuit sans désemparer avec sa campagne en faveur du dialogue national. Au terrain à Sosa, dans la commune de Kassavubu, devant une foule compacte, le coordonnateur de cette plateforme politique a réitéré son appel aux Congolais à se réunir autour d'une table afin de désamorcer la crise qui couvre dans la partie est du pays. En Ituri, la paix reste fragile et la crise sécuritaire continue de faire des victimes. Pour renforcer les initiatives locales, une nouvelle structure de dialogue permanent vient d'être créée. La semaine dernière, une délégation provinciale a séjourné à Kinshasa pour solliciter le soutien des autorités et des partenaires extérieurs. Pour en parler, nous recevons Michel Meta, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Encore une fois, bonjour à tous et bon dimanche chez vous. Les coordonnateurs humanitaires en RDC encouragent ceux qui assistent les déplacés à relever les retournés dans leur milieu. Il faut changer des logiques de l'assistance humanitaire dans des sites au processus de relèvement de retournés dans leur milieu, a déclaré Bruno Le Marquis. Il s'est exprimé ce week-end à Sake, dans le Nord Kivu, au moment où il visitait des actions et projets mis en œuvre par les communautés avec l'appui des organisations du système des Nations Unies. Sake est situé à 27 km à l'ouest de la ville de Goma, dans les territoires de Masisi. La coopérative agro-pastorale Tungana, entendez, unissons-nous, l'une d'elles, qui encadre des centaines de femmes et jeunes filles, a reçu la visite de Bruno Le Marquis. Cette coopérative exécute un projet d'autonomisation économique et cohésion sociale en faveur de ces femmes retournées vulnérables. Pour le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Le Marquis, de telles initiatives doivent être dupliquées dans d'autres provinces. On l'écoute au micro de Denise Lukesoma-Panda.
C'est vraiment encourageant de voir qu'on est sorti d'une logique vraiment d'assistance humanitaire dans les sites. Il faut appuyer ces gens qui rentrent chez eux, surtout ces femmes et ces filles qui ont beaucoup souffert les dernières années. On sait que la situation n'est pas facile, mais au niveau de la population, c'est important toujours d'appuyer la population. Ces citoyens et ces citoyennes congolais qui ont vraiment souffert ces dernières années, leur appuyer au retour dans leur processus de relèvement. Donc ce qu'on a vu ce matin, c'est vraiment encourageant et j'espère que ça pourra se multiplier dans de nombreuses zones du Congo où il y a beaucoup de déplacés et une fois que la situation devient un peu plus normale, les gens peuvent rentrer chez eux et les appuyer dans leurs efforts de se remettre sur pied, ce qu'on appelle la résilience aussi, aider les gens à reprendre un peu d'activité économique pour qu'ils puissent de nouveau toucher un peu de revenus pour permettre à leurs familles, à leurs enfants, etc. de reprendre une vie normale. Donc c'est vraiment important de changer de paradigme, de changer de logique et d'aller vers une logique de relèvement.
Nous restons dans la région où l'ONG Médecins Sans Frontières annonce le retrait progressif de son projet d'urgence au centre de santé de Chacha dans les territoires de Masisi au Nord Kivu d'ici fin septembre. Cela après 6 mois d'appui en soins de santé primaire dans cette aire de la zone de santé de Kiroche. MSF dit passer la main au ministère de la Santé. Mais la prise en charge des violences sexuelles se poursuit jusqu'à mi-octobre. Les bénéficiaires de ce projet estiment que ce départ est précoce vu la vulnérabilité des communautés locales. Le point avec vous, Naomi Mutoki.
Durant les 6 mois d'intervention, MSF a réalisé plus de 17 000 consultations curatives. 200 accouchements assistés, 473 victimes de violences sexuelles ont été suivies ainsi que d'autres cas. Pendant la même période, 600 cas graves et compliqués ont été référés à l'hôpital Il Africa de Goma et à l'hôpital général de référence de Kiroche. Pour le président de la société civile Force Vive des Mufuni Changa, ce départ est prématuré d'autant plus que la population retournée n'est pas encore en mesure de se payer des soins. Suivons ces plaidoyers de Sheldon Amazainga.
L'arrivée d'MSF est venue nous soulager sur les plans soins. Nous bénéficions vraiment des soins de qualité. Nous disons vraiment merci. Mais d'une grande surprise, nous écoutons que cette organisation bientôt va fermer. Et en tout cas, nous sommes désolés parce que nous n'avons pas plus de 7 mois dans cette entité. Aucun paysan qui est capable de se prendre en charge. Et le gouvernement, je ne sais pas si sera en mesure de nous prendre en charge. Pendant que on était déjà habitué aux soins de santé gratuits.
Notons que le centre de santé des Chacha dans la zone de santé des Kirotche Désert, 18 700 habitants.
En Ituri, les enfants en conflit avec la loi détenus dans la prison de Bounia vont désormais dormir dans de meilleures conditions. La MONUSCO a remis vendredi à cet établissement 80 matelas et 192 couvertures. Les directeurs de la prison reconnaissent que, jusque-là, ces mineurs passaient leur nuit sur des lits vétustes. Ils saluent cette assistance qui, selon lui, va nettement améliorer leurs conditions d'hébergement. Jean-Claude Lokidile.
Depuis octobre 2023, la prison centrale de Bounia dispose d'un nouveau bâtiment équipé de lits grâce au financement de la MONUSCO. Mais faute de matelas et de couverture, ce pavillon a été resté inoccupé. Camille Zondi, directeur de la prison, exprime sa gratitude.
Il y avait quelques matelas, comme il y avait l'état vestige de ces matelas. Et les autres dormaient sur les planches. Le mieux serait qu'on puisse remplacer ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a un impact positif par rapport à leurs conditions de détention. C'est pour donner un peu de bonnes conditions à ces mineurs qui sont en placement. Étant donné que le nouveau quartier doit quand même prendre au moins 60 mineurs, il a fallu qu'on puisse équiper tous les lits avec ces matelas et couvertures pour que les enfants soient quand même à l'aise par rapport à la sienne occupation. Vous savez que les mineurs sont des enfants. Ils sont mis en placement, ils doivent quand même passer bon dodo comme ils sont chez eux à la maison.
C'est la chef adjointe de la MONUSCO, Viviane Van de Perre, en mission en Ituri, qui a procéder à la remise officielle de ce nouveau pavillon réservé aux mineurs. Pour rappel, la MONUSCO a déjà réalisé plusieurs projets en faveur du personnel et des détenus de la prison centrale de Bounia afin d'améliorer à la fois les conditions de travail et d'incarcération. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Le calme est revenu cette fois sur les sites miniers de Moussebe, secteur Nord-Lukuga en territoire de Nyonzo. Vous avez compris, nous sommes dans la province du Tanganyika. D'après des sources locales, des affrontements ont opposé jeudi des éléments des FARDC appuyés par des Wazalendo locaux à un groupe de personnes qui s'identifient aussi comme des Wazalendo venus du Maniema. L'administrateur assistant du territoire de Nyonzou confirme l'information et souligne que, pour le moment, il n'y a pas de bilan de ces affrontements. Mais d'autres sources rapportent la mort d'une personne. Détail avec Paulin Munanga.
D'après des sources locales à Nyonzou, à la base de ces affrontements armés, une dispute entre des éléments des FARDC appuyés par des Wazalendo de Moussebe et des villages environnants et des personnes qui se réclament des Wazalendo qui sont venus de la province du Maniema. Les mêmes sources locales évoquent la mort d'un jeune garçon lors de ces affrontements. La population locale demande aux autorités de définir clairement la mission et les rôles des Wazalendo. Témoignage d'un habitant de Moussebe. Lorsque je suis arrivé à la maison, la situation était déjà tendue. Et après quelques heures, nous avons entendu des coups de feu. Un groupe de Wazalendo s'est allié au FARDC pour combattre un autre groupe de Wazalendo. L'attaque a commencé vers 6 heures du matin et le calme est revenu vers 18 heures. C'est l'autre groupe de Wazalendo venu d'ailleurs qui a semé le désordre. Nous demandons aux autorités de définir clairement le rôle des Wazalendo. Contacté par Radio Okapi, l'administrateur assistant du territoire de Nyonzou confirme que le calme est revenu dans la soirée de ce vendredi. Sabin Sabiti Ngongo précise que les Wazalendo, auteurs de ces troubles, se sont retirés de la carrière de Moussebe. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Nous l'avions dit en titre, après le bureau climatisé et salon UP, le camp de la République a choisi ce samedi la place publique pour poursuivre sa campagne en faveur du dialogue national. Au terrain à Sossa, dans la commune de Kassavubu, devant une foule compacte, le coordonnateur de cette plateforme politique a réitéré son appel aux Congolais à se réunir autour d'une table afin de désamorcer la crise qui couvre dans la partie est du pays. Freddy Kita estime que le dialogue demeure la seule voie pour sauver les pays de la balkanisation. Un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Sur les terrains à Sossa, artistes, musiciens, comédiens et autres ont été mobilisés pour assurer la réussite du meeting organisé par les camps de la République. Dans son allocution, le coordonnateur de ces regroupements politiques recommande aux Congolais de faire bloc afin de sortir les pays du complot ourdi par des forces étrangères. Freddy Kita appelle ainsi les Congolais à prendre conscience pour faire échouer les plans de la balkanisation du pays.
Nous sommes unis pour défendre pas seulement la République démocratique du Congo, mais et ses valeurs aussi. Ce qui se passe à l'Est est intolérable. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour communier avec cette population qui nous est très chère. Nous les avons appelés à prendre conscience parce que la République est en danger. Après les 24 communes, on va faire toutes les provinces pour véhiculer ces messages de la paix et de l'amour. Donc nous devons prendre conscience parce que le pays court un risque de balkanisation.
Selon lui, ces rassemblements marquent le début d'une grande tournée à travers la ville de Kinshasa, voire l'ensemble du pays, afin de véhiculer un message de paix, d'amour et d'éveil patriotique. Le message du camp de la République intervient quelques jours seulement après que le chef de l'État a placé la crise sécuritaire dans l'est du pays au cœur de son intervention à la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi a par ailleurs dénoncé un génocide silencieux qui, depuis plus de 30 ans, ensanglante son pays.
Interruption du trafic sur la nationale numéro 1 au niveau du territoire de Mbanzangungu. Et ce sera ce dimanche pendant quelques heures. Et pour cause, les autorités coutumières de ces coins du Congo central veulent comprendre pourquoi tant d'accidents mortels à répétition sur cette voie. C'est pourquoi elles ont décidé de mener les cérémonies coutumières qui seront organisées ce dimanche dans certains endroits de cette route d'intérêt national, comme l'a souligné l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, Willy Mankumbani Ndombele. Le point avec Nana Plurich Mambu.
D'après Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanzangungu, l'idée derrière l'organisation des cérémonies coutumières sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Mbanzangungu n'est pas venue de lui. C'est plutôt une proposition de la notabilité des chefs coutumiers de Mbanzangungu qui attribue une dimension spirituelle à la multiplication des accidents meurtriers entre les deux montagnes encerclant Mbanzangungu. Dans un communiqué rendu public ce samedi, cette autorité territoriale indique que trois mesures sont prises conformément aux exigences coutumières pour mener à bien cette cérémonie coutumière. C'est notamment la suspension des activités sonores dans toutes les églises situées à proximité de la route nationale de 14h à 16h. La circulation des motards, des véhicules et piétons sur la nationale numéro 1 sera suspendue à partir de l'entrée Melakinsende pour les véhicules en provenance de Kinshasa et au niveau de l'entrée de l'université Nkongo pour ceux en provenance de Matadi. Les tenanciers des bars, bistrots et autres établissements exerçant une activité sonore sont également dans l'obligation d'arrêter la musique et tout instrument sonore pendant ces temps précis. Ces cérémonies se tiendront notamment aux montagnes Kitemo Koué du Lombele, où les accidents meurtriers se produisent plusieurs fois. Cette décision a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Les autorités au niveau provincial, qui ne semblent pas être convaincues, sont en train de l'examiner avant de l'approuver, a affirmé Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanzangungu. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Nous ne quittons pas cette route car des coupeurs de route sont tombés entre les filets de la police nationale congolaise. Ces trois présumés malfaiteurs ont été arrêtés hier vendredi au village Kimbala, toujours sur la nationale numéro 1. C'est précisément entre la ville de Matadi et celle de Boma au Congo central. Les suspects, déjà connus de la justice, ont été interceptés avec des cartouches, une moto et une cagoule. Ces présumés bandits auraient bloqué plusieurs véhicules sur cette route d'intérêt national à la hauteur de Mont Mangala, en secteur de Lufu, toujours en territoire de Sekibanza, où ils ont ravi des sacs contenant de l'argent et plusieurs biens de valeur. Les trois individus ont été remis à la police criminelle pour enquête. De l'ouest de la RDC, nous allons à l'est, précisément en Ituri, où on nous signale qu'un militaire des FARDC a ouvert le feu sur un conducteur du taxi-moto, les blessant grièvement. L'incident s'est produit dans la nuit de vendredi à ce samedi à Chomia, localité située à environ 60 km de Bounia. Selon des sources locales, la victime aurait refusé d'obéir à l'injonction du militaire de s'arrêter car il pensait avoir affaire à un assaillant qui cherchait à lui arracher sa moto. Le soldat en cause a été arrêté par ses compagnons d'armes. Quant au conducteur blessé, il a été transporté dans une structure médicale pour des soins appropriés. Puisque nous parlons des engins roulants, sachez que l'on s'achemine peut-être vers une réduction drastique des cas d'accidents routiers dans la province de La Chopo en général et dans la ville de Kisangani en particulier. En effet, la direction provinciale de la Commission nationale des préventions routières a clôturé vendredi le recyclage pour la première vague d'au moins 500 conducteurs de mototaxis. Ces derniers ont reçu des brevets de participation, symbole d'acquisition de matières relatives au code routier.
Actualité internationale.
Premier jour de campagne pour la présidentielle du 12 octobre, ce samedi 27 septembre au Cameroun. Dans les deux prochaines semaines, les candidats et leurs partis vont aller à la conquête de l'électorat pour tenter de briguer le très convoité fauteuil présidentiel occupé jusqu'ici et depuis 43 ans par Paul Biya lui-même, candidat à sa propre succession. Ce 27 septembre, parmi lesquels le meeting organisé dans la capitale Yaoundé, celui du RDPC, le parti présidentiel, où, malgré l'absence de Paul Biya, ses soutiens et partisans se sont engagés à le maintenir au pouvoir.
L'invité.
En Ituri, la paix reste fragile et la crise sécuritaire continue de faire des victimes. Pour renforcer les initiatives locales, une nouvelle structure de dialogue permanent vient d'être créée. La semaine dernière, une délégation provinciale a séjourné à Kinshasa pour solliciter le soutien des autorités et des partenaires extérieurs. Objectif, donner plus de moyens au processus de paix. Michel Meta, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, en parle dans cet entretien avec Jean-Claude Lokidile.
Michel Meta, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Mission de plaidoyer sur le mécanisme de dialogue permanent en Ituri. Que peut-on comprendre d'abord de cette organisation?
Étant donné qu'il y a eu des deux mécanismes qui existent en Ituri, mais qui sont faits pas pour la durée, mais juste peut-être pour le biais de la cause. Et lorsqu'il n'y a pas de financement, ça s'arrête. C'est là où est née l'idée de ce mécanisme de dialogue permanent qui pourrait aborder les enjeux conflictuels en Ituri. Mais surtout, il y a eu beaucoup d'engagements de paix signés par les parties prenantes qui souffrent d'application. C'est de là aussi est née aussi l'idée d'avoir ce mécanisme qui vient répondre à ce besoin de suivi des engagements signé par les différentes parties prenantes pour le retour de la paix dans la province de l'Ituri.
Votre équipe qui compose cette structure vient d'effectuer une mission à Kinshasa du 7 au 22 septembre 2025 où vous devriez échanger avec différentes personnalités, députés nationaux, sénateurs, corps diplomatiques, responsables du gouvernement. Bref, que retenez de vos échanges à Kinshasa?
Oui, nous avons amené ce plaidoyer au plus haut pour que toutes ces autorités qui venaient de citer elle soit saisie de ces mécanismes. Ça c'est un, les informer. De deux, et s'approprier de ces mécanismes comme un outil important pour la paix dans la province de l'Ituri. Au niveau de différentes représentations, au niveau de différentes autorités à Kinshasa, nous leur avons présenté les mécanismes, l'ossature des mécanismes et l'idée qui est ancrée dans ces mécanismes pour que nous ayons cette fois-ci un appui substantiel. D'abord un appui politique pour le mécanisme, pour que les autorités politico-administratives s'en approprient et donnent aussi le temps pour que ce mécanisme ait vraiment cet appui politique. Et deuxièmement, l'appui financier, parce qu'un mécanisme robuste comme celui-ci nécessite un appui financier conséquent, même si de la part des communautés peuvent avoir la volonté de cotiser, mais ça serait insignifiant, il fallait que le gouvernement s'en approprie. L'initiative a besoin soutenir sur le plan financier.
Comment ont-ils accueilli votre demande, notamment en termes d'appui, en termes d'accompagnement?
En tout cas, nous avons eu des échos positifs. Même avant notre retour, nous avons laissé dans tous ces salons diplomatiques le besoin exprimé par la population de l'Ituri. Et que beaucoup de partenaires ont été flattés par cet outil de paix dans la province de l'Ituri et qu'ils ont accepté de soutenir sur le plan politique, de soutenir sur le plan financier et de soutenir sur le plan technique à terme de formation.
En quoi cette initiative peut-elle être une solution au retour d'une paix durable dans cette province de l'Ituri? Quelles sont les actions que vous allez mener concrètement sur le terrain pour que ce projet soit une réalité? Comptez-vous par exemple rencontrer les groupes armés parce que ce sont là les premiers acteurs?
C'est très important, surtout même pour les groupes armés. Je pense que si vous voyez dans le territoire d'Irumu, les groupes armés qui sont nés dans les communautés, tellement qu'ils étaient sensibilisés, ils ont adhéré au processus de paix, il y a un peu d'accalmie dans le territoire de quoi d'Irumu, et c'est déjà un acquis. Même s'il y a des problèmes dans le territoire de Djougou, je pense que le mécanisme va s'inscrire dans cette dynamique-là pour toujours rapprocher les groupes armés, leur suivre les engagements qu'ils ont signés, et tous les autres actes d'engagement que vous avez cités, il y a des dialogues intracommunautaires qui ont été faits dans les communautés, et tous ces engagements seront pris en compte, seront documentés pour leur suivi. Et je pense que ça, c'est vraiment un outil de taille pour la province de l'Ituri.
Quel rôle joue la MONUSCO, Michel Meta? Quelle est la contribution de la MONUSCO dans toutes ces démarches, toutes ces initiatives qui vous accompagnent pour trouver des solutions durables à la paix en province de l'Ituri?
En termes de financement, la MONUSCO accompagne. En termes d'appui logistique et tant d'autres appuis pour que le mécanisme soit vraiment une réalité. Et je pense que nous devons remercier sincèrement la MONUSCO au nom de la communauté de l'Ituri, parce que elle vient juste donner un autre go pour la paix dans la province de l'Ituri. Je crois que le mécanisme sera un outil important que la MONUSCO aurait laissé dans la province de l'Ituri pour résoudre les problèmes des Ituriens.
Michel Meta, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était notre invité Michel Meta qui s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile, et c'est ce qui met fin à notre grande édition du Journal du Matin, coordonnée par Jean Gandou Kabongo, supervisée par Lievin Mbuinga Vubu et mise en onde par Billy Landry Betou. Vous pouvez encore réécouter ces journaux sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la Radio de la Paix.